Bonjour, Yves au micro de Divergence FM pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne saurait déroger à la tradition et qui vous apprendra ou qui vous rappellera que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent depuis la fin du 19e siècle, 1895-5 et 32. Oui, c'est ça, la fin du 19e siècle. Ce jour dans 24 notes secondes, eh bien, nous allons évoquer la carrière d'un musicien de cinéma qui ne fut pas que musicien de cinéma, mais c'est essentiellement à cela que nous nous intéresserons, en l'espèce le dénommé Joseph Kosma, avec un K qu'il ne faut pas confondre, mais alors là pas du tout, avec notre cher et bien-aimé Vladimir Kosma avec un C. Vladimir, il est roumain, tandis que Joseph Kosma était un compositeur français d'origine hongroise, puisque né à Budapest le 22 octobre 1905. Très tôt, eh bien, il est baigné dans un bain musical, si je puis dire, et se destine d'abord, pardonnez-moi, à la carrière de chef d'orchestre. Il sera même boursier de l'Opéra de Berlin en 1929, avant de se décider à devenir compositeur et à avoir comme maître notamment Hans Eisler, un musicien allemand bien connu, qui immigra par la suite, comme bien d'autres, aux États-Unis juste avant la Seconde Guerre mondiale. Joseph Kosma arrive à Paris en 1933, certes un peu connu, et il est dans un premier temps accompagnateur d'une chanteuse, à l'époque vedette, mais aujourd'hui bien oubliée, qui s'appelle Lise Gauty. Une de ses premières chansons accompagnera un texte de Jacques Prévert, qui restera un de ses compagnons préférés, pour qui contribuera beaucoup à sa célébrité, l'un comme l'autre, Prévert aux paroles et Kosma à la musique, puisque la chanson s'appelle « La pêche à la baleine » et elle sera même filmée, l'ancêtre du vidéoclip sans doute. Très rapidement, eh bien, Joseph Kosma trouve le chemin des studios, et pas n'importe lesquels, puisque l'une de ses premières musiques de film l'est pour un film de Jean Renoir, tourné en 1935, qui s'appelle « Le crime de Monsieur Lange » et qui, comment dire, est baigné de ce qui va être en 1936 l'embellie ouvrière du pays, celle du Front populaire que ce film, à beaucoup d'égards, annonce avec une sorte de comédie enchantée, pourrait-on dire, pour parodier un peu ce que fera Jacques Demy bien après. Une comédie enchantée avec des personnages un peu lunaires et donc un parfait univers et un parfait écrin pour la musique de Joseph Kosma et une collaboration si satisfaisante qu'elle se poursuivra à de nombreuses reprises et qu'on va écouter, car j'ai déjà été bien bavard, un extrait de la seconde collaboration entre Joseph Kosma et Jean Renoir. C'est un chef-d'œuvre, ça s'appelle « La grande illusion ». Dans 24 notes secondes.
Lotte hat blaue Augen. Lotte hat blue Augen.
Blaue Augen.
Blaue Augen. Très bien.
Bonsoir, grenouille.
Ich muss mich bei Ihnen bedanken.
Und bei Trinken? Bei uns? Was sollen wir denn da sagen?
Also, guten Nacht.
Guten Nacht.
Guten Nacht.
Guten Nacht.
Bonsoir.
Guten Morgen.
Guten Morgen.
Bonjour.
Bonjour.
Bon, alors, je m'occupe du café.
Café, il est prêt. Dis-lui en français.
Le café est prêt.
Et voilà.
Voilà un extrait de la bande originale, un vrai extrait de la bande originale de La Grande Illusion de Jean Renoir, un film tourné en 1937, sur un scénario co-signé par Jean Renoir et par le grand Charles Pack, qui accompagna les plus grands réalisateurs français des années 30 et 40 au scénario. On aura ou pas reconnu dans l'extrait Jean Gabin, Dalio, ce cher Dalio, et Dita Parlo qui incarne Elsa, la jeune paysanne. La Grande Illusion se passe pendant la guerre de 14-18 et on y voit un certain nombre de Français prisonniers derrière les lignes allemandes. Jean Gabin, Dalio, déjà cité, mais aussi Julien Carrette, Gaston Modot et quelques autres, et même Pierre Freinet. Pierre Freinet qui noue une amitié avec le gardien du camp où sont enfermés, qui est incarné par rien moins qu'Eric von Stroheim, le grand réalisateur du cinéma muet, hélas, essentiellement, qui verra une partie de sa carrière de réalisateur ruinée par des réalisations, il faut bien le dire, dispendieuses, et qui donc, dans les années 30 et jusqu'à la fin de sa carrière, en sera réduit à jouer des rôles plus ou moins bienvenus, évidemment. Celui du commandant von Rothenstein dans La Grande Illusion fait partie des rôles bienvenus, où l'on voit, et c'est le grand propos de Jean Renoir, qu'en fait, les affinités sont plus des affinités de classe que de nationalité, et qu'en l'espèce, eh bien, il y a plus de points communs entre le noble Eric von Stroheim et le noble Pierre Freinet qu'entre le noble Pierre Freinet et le lieutenant maréchal extrait du peuple qu'incarne Jean Gabin. Un film en tout cas absolument magnifique et qui reste encore un des grands chefs-d'œuvre du cinéma, qui sortit, on le voit donc en 1937, alors même que les bruits de bottes, comme l'on dit, commençaient à être assourdissants, alors même qu'il s'agit d'un hymne à la paix et à la consolidation entre les peuples, comme on l'entend très rapidement dans cet extrait où on voit la jeune paysanne, après avoir eu la nuit, on le devine, mais à l'époque, ça ne se montre pas, une aventure avec Jean Gabin, eh bien, où l'on voit une fraternisation franco-allemande autour d'un café. C'est pas beau, ça? En tout cas, Joseph Kosma poursuivra ensuite sa collaboration avec Jean Gabin, puisqu'il signera notamment, je ne peux pas tout citer, les partitions de La Bête humaine en 1938. Je cite juste mes Renoir préférés, du Déjeuner sur l'herbe en 1958. Les autres, je les aime moins. Ah si, il y a Elena et les hommes avec Ingrid Bergman en 1956. Allez, on va écouter un nouvel extrait d'un autre grand réalisateur français avec lequel Joseph Kosma, notre héros de ce jour, aura collaboré à plusieurs reprises. Là encore, chef-d'œuvre absolu, on ne sait plus mais vraiment les mots à employer puisqu'il s'agit des Enfants du Paradis, un film tourné en 1945. On y revient, mais d'abord on écoute un extrait dans 24 notes secondes.
Yeah.
Voilà un extrait de la bande originale des Enfants du Paradis. Alors un extrait qui n'a pas été choisi au hasard, je vous prie de le croire, puisqu'en fait la bande originale du film était signée de Maurice Thirier, mais que c'est bien Joseph Cosma, sous un pseudonyme, en l'espèce celui de Georges Mouquet, qui aura composé la musique de cette pantomime, puisqu'en fait vous ne pouvez pas le voir, mais on voit à l'écran Jean-Louis Barrault qui interprète le mime de bureau, et bien faire une pantomime, c'est pourquoi d'ailleurs les gens s'esclaffent, on ne sait pas trop pourquoi. Et donc la musique était signée d'un pseudonyme, puisque nous étions en 1943, une heure sombre pour des gens comme Joseph Cosma, venu d'un autre pays, et avec un nom qui sonnait mal pour l'époque, et donc qui put quand même travailler grâce à la solidarité des producteurs, réalisateurs et autres des Portes des Enfants du Paradis, pardonnez-moi, un film qui connut bien des vicissitudes puisqu'il fut entrepris en 1943, une énorme production puisque le décor principal du boulevard du crime avait été construit au fameux studio de la Victorine à Nice, donc très très loin de Paris et de l'occupation allemande, et le tournage commencé le 16 août 1943 et bientôt interrompu parce que on s'imagine que les Alliés vont débarquer, mais là on parle du débarquement en Méditerranée. Le tournage reprendra en novembre 1943, s'interrompra à nouveau, reprendra en février 1944, mais entre-temps, puisque le vent commence à tourner, eh bien certains interprètes, comme Robert Le Vigan, trop compromis avec la collaboration, doivent être remplacés, ce qui veut dire retourner toutes les scènes dans lesquelles ils ont déjà joué. Bref, un tournage des plus mouvementés pour un film dont la légende veut qu'ensuite les producteurs, réalisateurs, scénaristes se soient arrangés pour qu'il ne soit fini qu'au moment de la libération. Et du coup, effectivement, Les Enfants du Paradis, qui, on ne m'en voudra pas de lire, est pourtant typiquement un film de l'occupation par les moyens, par l'esprit et par les interprètes, eh bien, sera considéré comme un des premiers grands films du renouveau et de la libération française. Quand je vous aurais dit qu'au générique de ce film, eh bien, il y a des interprètes mythiques comme Arletty dans le rôle de Garance, la vérité, toute nue au fond du puits, que à côté de Jean-Louis Barrault déjà cité, eh bien, il y a Pierre Brasseur, Pierre Renoir et bien d'autres, aujourd'hui hélas oubliés, comme Marcel Héran, Louis Salou et quelques autres, eh bien, je vous aurais dit qu'on a affaire à un des très très grands films du cinéma français dont le scénario et les dialogues étaient signés de Jacques Prévert, déjà cité comme vieux complice de Joseph Cosma. Et il y a aussi, je cite les noms simplement pour l'hommage et la reconnaissance qu'on leur doit, alors que ce sont souvent des personnes peu connues, même s'ils contribuent pour beaucoup au succès des films. Alexandre Trauner, qui aura conçu les maquettes, notamment du fameux boulevard du crime, et quelques autres pour illustrer donc le parcours de Joseph Cosma, qui va se poursuivre après-guerre avec à nouveau Marcel Carné. Et on va maintenant écouter un extrait de la bande originale d'un film sorti en 1946. Ça s'appelle Les Portes de la Nuit, et quelque chose me dit que l'un des airs que vous allez entendre ne vous sera pas inconnu dans 24 notes secondes. Simone, c'est quoi ce truc qu'on vient d'entendre là? Ça me rappelle quelque chose, mais je me souviens pas. Ben, c'est les feuilles mortes, bananes, un extrait de la bande originale de Des Portes de la Nuit, de musique de Joseph Kosma, et une musique dans laquelle, effectivement, pour la première fois, on entendait cette air qui deviendra, après le film, on ne l'entend pas pendant le film, Les Feuilles Mortes, avec des paroles de Jacques Prévert, vieux complice déjà cité de Joseph Kosma, Les Portes de la Nuit, qui sera donc le premier film tourné par Marcel Carné après la guerre, et un insuccès notoire, un film qui aura cumulé d'ailleurs les mauvais signes, ma foi, il n'en aura pas tenu compte, d'abord parce que les interprètes principaux auraient dû en être Jean Gabin et Marlène Dietrich, couple à l'écran comme à la ville à l'époque, mais que les susdits préfèrent tourner un Martin Roumaniac, à vrai dire, calamiteux, et que à la place donc de Jean Gabin et de Marlène Dietrich, on eut Yves Montand et Nathalie Nattier. Alors Yves Montand qui n'était pas encore celui auquel vous pensez, et Nathalie Nattier que depuis, eh bien, tout le monde a oublié, puisque la pauvre ne tourna que peu, donc un couple qui était loin d'être aussi glamour que celui prévu. De la même manière, le film coûta excessivement cher, 120 millions de francs en 1945, une somme qui fit scandale, alors qu'en 1945, eh bien, on sortait de la guerre et qu'il y avait encore des privations et des tickets. Les plus anciens d'entre nous, dont je ne suis pas, je le rassure, mes fidèles fans, eh bien, se souviendront peut-être que les tickets, il y en eut, à ma connaissance, jusqu'au début des années 50. Donc dépenser 120 millions d'euros pour construire la station de métro Barbès-Rossechoir, ça parut trop. Et puis surtout, eh bien, tout ce qui avait fait la fortune de Marcel Carné avant-guerre et pendant la guerre, le destin qui était ici interprété par Jean Villard, jouant le rôle d'un aveugle, parce que c'était le destin, donc vous voyez, eh bien, tout ça ne faisait plus fortune et il fallait donc la qualité de la partition de Joseph Kosma pour qu'on se souvienne encore des Portes de la Nuit autrement que comme un échec. Et donc Yves Montand, qui ensuite, avec le brio que l'on sait, je pense, créa la chanson, eh bien, ne l'interprète pas dans le film. Film dans lequel, pour autant, aux côtés de Montand, Nattier déjà cité, il y a pourtant énormément d'acteurs admirables. Pierre Brasseur, Serge Reggiani, Bubu, alias Raymond Bussière, que tout le monde a oublié, Julien Carrette, déjà cité à propos de La Grande Illusion, etc., etc. Un film qui ne restera pas dans les mémoires, mais apparemment personne n'en sortira fâché, puisqu'on va retrouver Joseph Kosma, non pas dans le film suivant de Marcel Carné, mais dans un des films suivants de Marcel Carné, un film au ton, comment dire, décalé, on va y revenir après, qui s'appelle Juliette ou la clé des songes, dans 24 notes, secondes.
Thank you.
Un extrait de la bande originale de Juliette ou La Clé des songes, un film de Marcel Carné, une musique de Joseph Kosma, notre héros de ce jour, et un film un peu mineur, il faut bien le dire, une sorte de fantasy rêvée dans les principaux rôles duquel on retrouvait Gérard Philippe, évidemment charismatique, et à ses côtés Suzanne Cloutier, une actrice peu connue, mais qu'on a vu quand même tourner chez Orson Welles, pour un film, ma foi, adapté d'une pièce de Georges Neveu, un peu improbable, et qui va non pas clôturer, mais presque clôturer notre hommage de ce jour à Joseph Kosma. Je m'en voudrais quand même de ne pas dire, même si je l'ai déjà évoqué, que Joseph Kosma, eh bien, c'est aussi l'auteur de chansons magnifiques avec son compère Prévert, Les Feuilles Mortes, Barbara, Les Enfants qui s'aiment, interprété par Montand, Gréco et bien d'autres, que l'homme aura accompagné aussi toute la qualité française des années 50, De Coin, Le Chanois, Duvivier, Verneuil, etc., qui leur a composé des ballets pour le théâtre, de la musique pure, comme l'on dit sur ma petite fiche, de la musique de scène, des ouvrages lyriques, bref, une riche carrière pour un homme qui sera mort le 7 août 1969, donc si je calcule bien, à l'âge de 64 ans seulement. C'était bien jeune pour un si grand talent. Allez, on se quitte en écoutant un petit extrait de la bande originale d'un film de Robert Siodmak avec Romy Schneider dans le rôle principal, mais ce n'est pas Sissi. Ça s'appelle Katia et c'est sorti en 1959 dans 24 notes secondes. Secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt. See you, bye bye.